Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, de retour parmi vous après une belle coupure. Je suis ravi de vous retrouver. Et pour cause, c'est le nom de cette émission qui a pour but de donner la parole aux acteurs de la société, aux artistes, aux inconnus qui s'investissent, aux investisseurs qui sont inconnus. Une heure d'entretien tous les lundis soirs en direct avec vous. Un numéro de téléphone si vous le souhaitez, 09 72 51 55 46. Ce soir, nous accueillons un instituteur, un professeur des écoles, un enseignant qui exerce en banlieue parisienne, à Nanterre exactement, dans une REP. On dit REP maintenant, on ne dit plus ZEP, on dit REP. Son parcours, ses élèves, la gestion avec ce fameux Covid, le confinement, l'état de l'éducation nationale, ses projets. On va retrouver Folie, et oui, c'est son prénom, Folie, dans quelques secondes. Une folle émission, on l'espère. A tout de suite. Et voilà, et pour cause, fameuse émission, tous les lundis de 21h à 22h en direct, et je suis donc avec Folie. Bonsoir Folie.
Bonsoir Karim.
Bienvenue.
Merci de m'avoir invité.
Tu es très content de faire de la radio, je vois avec ton sourire.
J'ai vraiment le sourire jusqu'aux oreilles.
Voilà, donc un petit coucou à tous les auditeurs, vous m'avez manqué, on a eu une petite coupure pendant quelques mois, mais là je suis de retour, nous sommes en mois de septembre, donc jusqu'à la fin de saison, on l'espère. En tout cas, on aura plein de choses à dire, ça sera une année particulière de toute façon. Toi aussi, tu as eu une année particulière, la saison dernière en tout cas.
Effectivement.
Instituteur depuis combien de temps ?
Alors actuellement, là ça fait 9 ans. Au 1er septembre, ça fait 9 ans que...
Tu as quel âge, Folie ?
36 ans.
36 ans, jeune exact. Instituteur. Tu exerces à Nanterre.
Effectivement.
Très belle ville, de région parisienne.
Exact.
Nanterre, la nébuleuse. Nanterre, très jolie. Un choix depuis longtemps, tu souhaitais devenir professeur des... Alors on dit quoi ? Professeur des écoles, instituteur, enseignant, maître, quel est
alors,
le terme là ?
Le véritable terme, c'est professeur des écoles.
D'accord.
Après, dans les usages, il y en a beaucoup pour, en fonction des générations. Certains disent instit, certains disent prof, certains disent maître. C'est surtout les élèves qui nous appellent maître. Mais bon, c'est une question de génération, quoi.
Toi, on t'appelle maître ?
Certains, oui, d'autres, monsieur. Ou, voilà, d'accord. Ça, c'est en fonction des élèves.
Ta classe, CM1, CM2, CE2, CM1.
Alors,
parfois, on fait des classes mixtes maintenant ?
Oui, bah, je sais que dans mon école, voilà, il y a plusieurs CM1, CM2, mais moi, j'ai un CM1 simple de d'accord. 24 élèves.
Oh, bah, ça va !
Oui.
24 élèves parce que REP.
Parce que REP.
Donc REP, on l'explique, ça veut dire ?
Alors c'est réseau d'éducation prioritaire et nous fonctionnons avec, c'est tout un quartier qui fonctionne avec deux écoles et un collège. Et il y a une liaison qui est faite entre le collège et nous pour permettre aux élèves de fonctionner avec les différents projets que nous mettons en place.
Donc quand on dit éducation prioritaire, c'est-à-dire que vous avez un budget plus conséquent, vous avez plus de moyens, vous avez des effectifs un peu plus réduits.
Au niveau des effectifs, voilà, on a une moyenne à ne pas dépasser, on ne doit pas dépasser 25 élèves. Ensuite, on bénéficie de tarifs un peu avantageux quand il s'agit de sorties culturelles et même d'autres types de sorties. On a quelques avantages aussi au niveau des projets et on nous facilite un peu plus la tâche quand on souhaite, par exemple, aller dans un musée, mettre en place des projets théâtre.
Quand on est en REP, c'est-à-dire qu'on a des élèves plus en difficulté, plus difficile à gérer.
Alors la dénomination REP, c'est surtout lié à l'environnement et c'est vrai qu'on a des élèves qui ont des difficultés, on en a qui fonctionnent très bien. Ce serait dur de dire que tous les élèves de REP sont forcément en difficulté. Non, il y en a certains qui fonctionnent vraiment très bien et on a de très très bons élèves comme on en a qui ont des difficultés pour raison X ou Y.
Est-ce qu'il y a une vraie mixité sociale dans ces établissements dits REP ?
Alors, je vais parler de mon école. J'y suis arrivé il y a 6 ans et on a vu une progression de la mixité, mais ça reste quand même un ratio 70-30. Pour la maigre expérience que j'ai eue, il y a quand même certains élèves qui quittent le quartier par peur qui sont parfois non fondées.
On quitte le quartier ? Est-ce que d'habitude on doit respecter la carte scolaire ?
Effectivement, mais bon, il y a parfois des moyens, des,
Ça existe petites... encore, ça, de les pouvoir contourner la carte scolaire, de se dire pas fait pour mon gamin, donc je vais trouver des petites solutions.
Il est possible de contourner la carte scolaire, ça, il y a des moyens, ça c'est clair, mais c'est pas du tout, c'est pas ce qu'on recherche nous en tant qu'enseignants. Nous on aimerait accueillir vraiment tout le monde et faire en sorte de créer ce à quoi on aspire, c'est-à-dire une véritable mixité sociale. Maintenant, on peut, certes, pour raison X ou Y, et ça on doit le respecter également, des parents choisissent de mettre leurs enfants soit dans le privé, soit de trouver d'autres moyens par des dérogations pour mettre leurs enfants dans d'autres établissements. Mais voilà, la REP, c'est juste une étiquette, mais il faut être sur le terrain d'abord pour pouvoir en juger vraiment. Parce que...
Ça a été une vocation pour toi, Folie, de devenir instituteur, professeur des écoles, enseignant. C'est un truc qui est venu comment ? Parce que souvent, moi j'ai quelques témoignages dans mon entourage, souvent c'est une vocation, on a envie de faire ça depuis longtemps, depuis tout jeune. Est-ce que ça l'est pour toi ? Est-ce que...
Moi c'est assez particulier, c'est-à-dire que j'ai... C'est vrai, quand j'étais au lycée, lorsqu'il y avait des portes ouvertes, je ne m'intéressais pas à d'autres métiers, mis à part le professorat. Mmh. Et généralement, j'avais qu'un professeur de PS présent. Et j'allais le voir et il m'expliquait un peu la formation que je devais avoir pour arriver au professorat de PS. Et au fur et à mesure des rencontres, j'ai bifurqué vers le professorat des écoles. Et pour la petite anecdote, mes deux parents sont originaires du Togo et mais mon père était un enseignant, j'ai deux oncles enseignants, du côté de ma mère j'ai une enseignante aussi.
Cette famille.
Concrètement, je crois que ça traîne un peu dans la famille.
Tes enfants seront peut-être enseignants.
Moi, peut-être, j'en sais rien, ça va être chose.
Tu le souhaites ?
S'ils souhaitent le faire, je leur donnerai toutes les ficelles pour durer. Ça fait que 9 ans que je suis enseignant, mais pour aborder le métier de la meilleure des manières.
Est-ce que vous vous sentez assez valorisé dans votre boulot aujourd'hui ? Est-ce que les enseignants, et je parle de façon générale aussi les profs de collège, de lycée, est-ce que vous vous sentez reconnu, assez valorisé financièrement, au quotidien, accompagné ? Ou est-ce que tu crois qu'il y a encore un manque, ou ce fameux mammouth, on l'a assez dépoussiéré ou pas ? D'ailleurs, on en parle très peu, il y a très peu de manifs d'enseignants en ce moment. Il y a d'autres manifs.
C'est vrai, il y a peu de manifs
mais
d'enseignants.
Les enseignants, on ne les entend pas trop là en ce moment.
Effectivement, mais au niveau de la valorisation, il est vrai que je pense qu'il y a eu un avant confinement et un après confinement. Lorsque les parents se sont confrontés au devoir à la maison et à la journée que nous passons normalement avec leurs enfants, ils ont vu que enseigner n'était pas un métier qui se faisait sur un claquement de doigts, et il y a toute une pédagogie, il y a tout un contact à avoir, il y a toute une psychologie.
Mmh. Et Olivier qui réalise l'émission a 4 enfants, il a fait l'enseignement à la maison, il n'en pouvait plus. Il dit, c'est un vrai boulot.
Je peux largement le comprendre. Mmh. Et c'est vrai que au niveau de la valorisation, pour mon école, on se sentait déjà reconnu dans le quartier. Voilà, au bout de 6 ans dans le quartier, dans l'école, on sent qu'on est des personnages qui sont des repères pour certaines familles, pour certains enfants, et je sais que mes collègues et moi-même, nous faisons en sorte de créer énormément de liens, et ça, ils le sentent, les parents le sentent, et ils nous remercient chaleureusement chaque année du travail effectué. Après, en ce qui concerne la valorisation de l'institution, on pourra dire que on peut être valorisé, mais c'est très...
Tu as un ministre qui s'appelle Monsieur Blanquer en ce moment, ministre de l'Éducation nationale, qui a géré pas mal de choses. Qu'en penses-tu ? C'est un bon ministre ?
Dire que c'est un bon ministre, ce serait une prise de position assez radicale, mais il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, mais il y a des prises de position qui sont assez gênantes quand même.
C'est-à-dire ?
Par exemple, les dernières, c'est ce qui se passait sur les réseaux, la récupération au niveau de l'EPS par rapport aux sportifs de haut niveau, alors que on sait très bien qu'en STAPS et en EPS, les postes sont de moins en moins pourvus et qu'il manque des professeurs.
Ah bah d'ailleurs, il y a une réforme par rapport à ça, vous ne devez pas faire une demi-heure de sport chaque jour ou non, ça a été discuté à un moment donné.
Au niveau des programmes, on doit faire 3 heures d'EPS par semaine, donc.
D'accord.
C'est quasiment la même chose, donc il n'y a pas de. Mmh. On sent pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a dans le quota horaire hebdomadaire, il était déjà prévu des séances de à peu près 45 minutes.
Alors c'est vrai que les réformes, c'est difficile. L'éducation nationale, dès qu'il y a une réforme, il y a contestation, ou en tout cas on demande d'autres réformes qui n'ont pas lieu. Qu'est-ce qui devrait changer aujourd'hui à l'école ?
Waouh.
Et ouais, moi je pose des questions comme ça.
Exact,
ça,
mais
c'est la première, je suis chaud.
Ouais, je vois ça. Bah,
Là, demain, toi, t'es ministre de l'Éducation nationale. T'es en charge, voilà, de changement. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme ça pour améliorer les choses?
Grosse question.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qu'on ait vraiment beaucoup plus de moyens sur certaines...
Deuxième budget de l'État, quand même, l'Éducation nationale.
Deuxième budget de l'État, on se pose parfois certaines questions sur... Après, bon, il est clair qu'il faut savoir une chose, l'État met beaucoup d'argent dans l'éducation. Ensuite, nous, les écoles, nous sommes gérés par les communes. Et c'est vrai que l'argent, les subventions arrivent aux communes. Ensuite, il y a une redistribution qui est faite en fonction des écoles, en fonction des effectifs des écoles. Moi, en tant que ministre, là, tout de suite, te donner quelque chose, ça va être très compliqué, il faut le penser. Mais
les horaires sont adaptés, le rythme est adapté.
Alors moi,
en élémentaire, en tout cas.
Moi, je suis en élémentaire et le rythme de la semaine de 4 jours me convient parfaitement. Le nombre d'heures passées en classe me convient aussi. Pour l'instant, je n'ai pas de soucis. Après, il faut savoir que chaque enseignant a sa pédagogie, sa sensibilité et peut faire en sorte que... Ces horaires-là de 8h45 jusqu'à midi et de 13h45 jusqu'à 16h30 dans mon école pour parler d'elle ça peut varier. Il y a des structures mises en place qui font que les élèves peuvent passer un bon moment au sein de la structure, quoi.
Souvent, ce qui est difficile, c'est la passerelle entre l'école élémentaire et le collège.
Ouais.
C'est là où ça switch bien ou pas.
Ouais.
Est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer les choses par rapport à ça? C'est vrai que quand on voit un enfant d'âge élémentaire, plutôt cool, c'est un autre rythme, etc. Puis il débarque dans cette grande maison au collège où parfois le collège peut être destructeur, d'ailleurs,
d'accord,
quand on sort, parce qu'on arrive dans un grand établissement ou un autre rythme avec plusieurs professeurs, etc.
Ouais.
Est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer ces passerelles-là? Il y a des choses qui sont déjà mises en place?
Alors moi, je vais parler de ce que je connais. J'ai déjà eu un CM2 et j'ai dû faire une liaison, ce qu'on appelle la liaison CM2 6e. Et très tôt, dès le mois d'avril, des informations sont prises par le collège sur nos élèves de CM2, à savoir qui sont les élèves en difficulté, quels sont les élèves qui sont en réussite, est-ce qu'il y a des binômes qui fonctionnent et qui vont se tirer vers le haut, est-ce qu'il y a des élèves qui ont une plus grande sensibilité pour le PS, est-ce qu'il y a des élèves qui ont des grandes sensibilités pour les langues, les mathématiques et ainsi de suite. Donc il y a une liaison qui est faite. Ensuite il y a une journée banalisée qui est organisée entre les CM2 et les 6e. Les CM2 se déplacent au collège, vont suivre des cours comme des 6e. Comme des futurs 6e, pardon. Et nous avons aussi des temps de concertation entre collègues de CM2 et de 6e. On en a deux, juste avant d'envoyer nos élèves. Et ensuite, il y a la véritable visite du collège. Donc, il y a la possibilité aussi pour nous, enseignants de l'école élémentaire où je travaille, d'utiliser des espaces du collège. Et ça permet aussi aux élèves de prendre cette fameuse passerelle et d'aborder l'entrée au collège beaucoup plus sereinement. Donc il y a certaines choses qui sont mises en place, toutes, en tout cas moi je l'ai vécu, et ça porte ses fruits. On sent des élèves qui arrivent en 6e sans aucun souci.
Tu parles d'élèves en difficulté.
Oui.
Est-ce qu'il y a un portrait type d'élèves en difficulté? Est-ce que c'est souvent lié réellement à la condition familiale, à une condition sociale? Est-ce que tu as déjà référencé entre guillemets, hein, je pense pas que tu as fait une liste sur Excel.
Non,
mais c'est dû à quoi? Une autorité parentale qui n'est plus, un mauvais suivi au quotidien?
Les raisons sont multiples. Je peux pas te faire un portrait type de la difficulté d'un élève. Elles sont vraiment multiples.
Est-ce qu'on peut être en décrochage dès l'élémentaire? Ça arrive.
Ça peut, ça peut se déclarer un peu plus tardivement, mais les difficultés sont tellement diverses. Ça peut être un choc émotionnel par rapport à un enseignant, un choc émotionnel lié à la famille, une difficulté d'apprentissage où vraiment on n'arrive pas à passer au-dessus et ça bloque. Vraiment, il y a un véritable blocage aussi. Il y a certains élèves qui ont des blocages sur certaines matières, c'est comme ça, et ça ne passe pas. Et d'une année sur l'autre, ça peut changer aussi. Et moi, j'ai des élèves, moi je ne suis pas un très très bon historien, je ne suis pas très bon en histoire, et je sais que je l'enseigne d'une manière qui n'est pas, en tout cas qui n'a pas réussi à intéresser certains élèves, et je sais que l'année d'après, ça s'est très bien passé. Ça dépend vraiment. Enseigner, c'est vraiment quelque chose, c'est un métier incarné. Donc c'est vraiment la personne qui va vous transmettre ce savoir et la manière dont, dont il va le faire, ça peut soit aider l'élève qui est en face, soit bah, créer un choc qui va créer des difficultés derrière. Mais on peut, il y a aussi les difficultés liées au suivi. On peut avoir des, on peut, c'est pas tout le temps le cas, mais on peut avoir des familles qui ont un peu de, voilà, qui ont un peu de mal à soit liés aux emplois qui sont contraignants, des horaires tardifs, qui font qu'ils ont du mal à suivre leurs enfants. Et nous, nous sommes là aussi pour les aider. Et il y a des services que la municipalité offre pour combler. Il y a des associations aussi qui travaillent énormément.
Sur le suivi scolaire, sur le soutien scolaire.
Dont une que je peux citer, qui est l'association Cerise, que je connais bien, qui fait à Nanterre, qui fait vraiment un travail merveilleux pour les élèves du quartier du Chemin de Lille. Donc il y a plusieurs dispositifs, même si la, même si la structure familiale, selon nous, n'est pas entre guillemets correcte, parce que c'est quand même porter un jugement de dire qu'elle est correcte ou bonne. Il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place et qui permettent de, d'aider en fait, ces familles-là qui sont dans la difficulté. Et il arrive quelquefois, nous, enseignants, de renvoyer certaines familles vers des associations ou vers des heures d'études. Et on voit où nous-mêmes, en tant qu'enseignants sur temps scolaire, on peut aider nos élèves sur ce qu'on appelle les APC, les activités pédagogiques complémentaires. Donc l'élève qui est en difficulté et qui est repéré dans la classe a... tout un réseau d'aides possibles. Il y a également aussi dans les écoles de REP des, ce qu'on appelle des RAZ. Ce sont des dispositifs où il y a des maîtres, des enseignants spécialisés, soit à dominante comportementale ou soit à dominante pédagogique, et une psychologue scolaire également. Ce trio-là reçoit des élèves et les aide afin qu'ils puissent, l'enseignante à dominante pédagogique, pour rentrer un peu mieux dans les apprentissages. Pour l'enseignante à dominante comportementale et plutôt relationnelle.
Et ça fonctionne. Il y a des psychologues qui sont...
Qui
travaillent sur plusieurs établissements, je suppose.
Oui, hein, elles ont énormément de travail, vraiment. Ouais. Vraiment
aussi
beaucoup.
Les infirmiers scolaires, on les salue, les infirmières scolaires aussi.
Exactement, moi j'en ai connu une très très bonne, qui maintenant
est... Très bonne, très sympa, tu veux dire.
Non, je veux dire une très compétente.
Ah oui,
voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr.
Très compétente, ouais. qui maintenant est à la retraite, et vraiment c'est une véritable béquille pour nous.
Donc ce que tu dis, finalement, l'école élémentaire, on parle sur l'élémentaire, fonctionne bien. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des suivis, il y a des relais.
Exactement. Si
toi, t'as une bonne vision en tout cas qui est mis en place.
Exactement, j'en ai une très bonne, puisque j'ai pu expérimenter, j'ai pu même voir des réussites, de véritables réussites. Et surtout, il est vrai que pour la condition sine qua non de cette réussite, c'est que le lien entre l'école et la famille soit vraiment serein, et qu'il y ait vraiment ce que notre ministre appelle l'école de la confiance. Nous sur le terrain, c'est vraiment, je sais que mes collègues ainsi que notre directeur, nous faisons attention à ce que le lien école-famille soit très très très
étroit et
qu'on fonctionne en duo. Et que ces deux entités en tout cas fonctionnent en
c'est
duo.
C'est fait par la suite au collège, ça, tu crois, au lycée?
Il y a des suivis possibles. Par exemple, il y a des élèves de CM2 par exemple qui bénéficient via d'un passeport 6e. Donc le passeport 6e, c'est un dispositif qui repère des élèves qui sont un peu fragiles ou qu'on souhaiterait pousser. Et ils disposent d'un suivi toute l'année de 6e, et ça leur permet de ne pas se sentir lâchés après les 5 années d'école élémentaire.
Donc ça se passe bien.
Ouais, bon,
en tout cas,
de mon point de vue, il y a certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. Mais
pourquoi vous êtes dans la rue régulièrement, les profs et les instituts là?
Régulièrement, non?
Ah, souvent quand même. Bon, un petit peu moins en ce moment, parce qu'il y a d'autres manifs et il y a plus trop de place dans les rues.
Mais c'est peut-être, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup trop de.
Est-ce que le prof est anti-réforme finalement?
Il n'est pas anti-réforme. Il est le professeur des écoles et attend que la réforme soit cohérente, tout simplement, et qu'elle ne bouscule pas son quotidien, et qu'elle soit fondée.
Parce que pas à votre niveau en élémentaire, mais c'est vrai que sur d'autres collèges de lycée, il y a eu des réformes là qui ont
amené
des changements de nom de classe, nouvelles choses,
exactement,
etc.
Nous ne sommes pas anti-réforme, c'est juste qu'on souhaite que tout simplement enseigner dans les meilleures conditions possibles.
Vous êtes bien payé?
Ça, alors, je vais parler. Je vais parler. C'est mon point de vue. Je ne parle pas.
Dis-moi combien tu gagnes.
Moi.
Allez.
Allez.
Alors, attends. Bah ouais, mais on parle. On va dire tous notre normalement, salaire ici. Moi, alors, commune, je suis très, très, très bien payé.
Bah, je vois ça. C'est la radio associative la plus
la plus riche de Paris du 18e.
C'est ça. Donc, clairement. Après, c'est disponible. Hein. Mon salaire n'est pas.
Tu as 36 ans, on le rappelle, et ça fait 6 ans que tu. Non, oui, 36 ans.
9 ans. 9 ans que j'enseigne. Donc, j'ai une année de stagiaire, 8 années en tant que titulaire. Au bout de 8 ans, j'ai un salaire de base de 1753 euros. Et ensuite, à cela, on ajoute des primes. Des primes parce que je suis dans un réseau d'éducation prioritaire et une autre prime qui est un peu calquée à une prime qu'avaient les professeurs du second degré.
C'est peu, au bout de 9 ans, de 1753 euros. Net.
Après. Alors moi, je vais te donner mon point de vue. J'ai fait ce métier, je savais exactement ce que j'allais gagner. Je suis pas surpris, il n'y a aucune surprise, tout est écrit, tout est détaillé dans des documents clairs, nets et précis. Il n'y a aucune surprise pour moi. Donc, pour un bac plus 5, c'est très maigre. Pour un bac plus 5, c'est très maigre. Moi, clairement, j'ai pas choisi ce métier pour être un pacha. Ça m'intéresse pas du tout. Le but, c'est d'arriver sur mon lieu de travail et d'avoir le sourire et d'être avec des personnes que j'apprécie et d'avoir mes élèves et de pouvoir transmettre quelque chose, de faire en sorte que leur journée soit riche et qu'ils puissent ressortir de ma classe en ayant appris quelque chose. Si déjà ils retiennent une chose de la journée, moi j'ai fait mon boulot. S'ils en retiennent 2, 3, 4, 5, je suis magnifique. Je dirais pas ça de moi quand même. Mais voilà.
Donc toi, tu fais pas ce boulot, en effet, tu savais très bien que t'allais pas.
Voilà, je savais très bien que j'allais pas gagner des 1000 et des 100, mais ça me. Voilà, c'est. Quand on le sait, quand on est prévenu, il suffit de lire, il suffit de regarder, tout est disponible. Il y a rien de caché. Tout est disponible.
Il y a des grilles sur la fonction publique.
Il y a les grilles indiciaires, il y a le salaire net, et ainsi de suite, les différentes primes qu'on peut avoir, le second degré, si on est certifié ou agrégé, tout. Détaillé, il n'y a aucune surprise. Alors oui,
après
ça peut...
d'autres disent que vous avez beaucoup de vacances.
Ouais,
quand même.
Alors c'est à ces personnes-là, moi je les invite à venir faire classe cette semaine de suite et ensuite ils verront si les vacances ne sont pas sont nécessaires ou non. Ces vacances-là, elles sont pour nous, elles nous permettent de nous reposer. Et un enseignant reposé est un enseignant qui transmet correctement. Donc, qui ne laisse pas libre cours à sa nervosité ou autre.
On le dit pas assez, vous avez aussi un travail conséquent à domicile, malgré tout. Je crois que vous faites 26 heures semaine de base.
Alors, 24 heures semaine de 24
heures. Et il y a une dizaine d'heures de boulot, certainement, ou un peu plus.
Ouais, entre 10 et 15 heures peut-être à la maison, en fonction des niveaux. Il y a des niveaux qui requièrent peut-être un peu moins de travail à la maison, mais quand même, il y a une bonne partie, une partie que les personnes ne voient pas, qui se passe à la maison. Et y a des temps de correction, des temps de préparation, parfois même des temps de concertation entre collègues. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui jalonnent le métier d'enseignant.
Ton directeur écoute ?
Mon directeur est à l'écoute.
Donc on va lui passer un petit bonjour.
Et
ton directeur.
Salut David.
Salut David. Tu tutoies ton directeur, bravo.
Hiérarchie. Oui. Ah, mais parce que c'est.
Alors justement, les directeurs d'école, c'est un supérieur hiérarchique ?
Non. Dans les textes, le directeur d'école est chargé de direction, mais il n'est pas notre supérieur hiérarchique.
C'est pas lui certains... qui t'évalue, c'est l'inspecteur.
C'est l'inspecteur qui
va t'évaluer.
Mais l'inspecteur, en arrivant dans l'école, va voir quand même le directeur pour, qui donne son point de vue sur l'enseignant qui risque d'être inspecté dans la foulée. Donc les directeurs sont des personnes hyper expérimentées. Ils ont c'est une vraie plus-value
pour
l'école.
C'est-à-dire on peut devenir très vite directeur sans expérience.
C'est rare. Il faut quand même un certain bagage et il faut passer un entretien de direction. Et si on satisfait à cet entretien de direction, qui est un entretien qui se prépare, on peut par la suite être directeur. C'est pas si facile que ça. Et moi, je sais que les directeurs que j'ai côtoyés sont des personnes très expérimentées et sur lesquelles je m'appuie. Alors, c'est vrai que ça fait 9 ans et je pourrais dire, je connais un peu comment ça fonctionne, le fonctionnement plutôt, excusez-moi. Mais non, moi, je m'appuie toujours sur mon directeur et surtout quand j'ai des idées de projet ou quand j'ai des questions, et même des questionnements pédagogiques. Ce sont des personnes ressources et on s'en sert énormément. Et même au niveau du relationnel parent... parents enseignants, on se réfère régulièrement à nos directeurs pour...
Donc David est un bon directeur.
David est un très bon directeur.
D'accord. Tu veux quelques jours de congé?
C'est pas lui qui me les donne.
Pardon. C'est vrai. Bien, on va faire une pause dans quelques secondes, mais on va bien sûr évidemment parler de toute cette période Covid, confinement, etc. Ouais. Ce que vous avez dû, vous, professeur des écoles, vous adapter, pas que, hein, les profs de collège, de lycée, etc.
Exact.
Ça n'a pas été évident parce qu'on se souvient du premier confinement au mois de mars où ça a été fait un peu dans la rapidité. Une question par rapport à ce pass sanitaire. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que les enseignants doivent être vaccinés ? Toi, ton avis personnel, est-ce que oui, un enfant peut véhiculer ce fameux Covid ? Est-ce que ça devrait être... C'est pas encore une obligation pour vous ?
Bah non, mais concrètement, la plupart des enseignants le sont.
C'est pas obligé en tout cas. Il y a pas de texte qui vous l'oblige pour l'instant.
Ouais, mais après, le bon sens fait que on va pas polémiquer 15 000 ans là-dessus. On se vaccine et on se protège. On protège les autres. On évite les formes graves de Covid. En fait, il y a pas de débat pour nous. En tout cas, pour moi. En tout cas, pour moi, je vais pas parler au nom de la communauté.
Parce qu'il y a des anti-vax enseignants qui sont dans les rues quand même.
Je vais pas parler pour la communauté éducative, mais en tout cas pour moi, il y a pas de débat. Je me vaccine. Je prends mes deux doses et je me retourne à l'école. Je vais bosser et tout va bien quoi. C'est pas un geste.
Vous portez encore le masque actuellement? Encore obligatoire?
Oui, au niveau du protocole sanitaire, les enseignants portent le masque, les élèves également. Les élèves doivent, en entrant dans l'école, laver leurs mains avant de rentrer en classe.
Encore.
Donc il y a encore des mesures. Quand il y a un cas de Covid,
donc
la classe est fermée.
Donc là, c'est pas évident en ce moment. Aujourd'hui, il faisait 30 degrés en région parisienne.
C'est un peu compliqué.
C'était un peu compliqué.
C'était chaud.
On voit que tu transpires un peu. Et en plus, t'es venu à vélo, bravo.
Merci.
De Nanterre jusqu'au 18e, c'est pas mal.
Ça va.
Le vaccin pour les enfants?
Pour l'instant, ça.
C'est pas qui travaille avec, c'est pas une obligation
c'est
encore.
Pas une obligation, mais bon. Moi, si ça doit. C'est comme. Il y a de nombreux vaccins qui sont faits pour les enfants, que ce soit le DTP, le BCG ou le. Il y a toutes ces. Si le vaccin contre la Covid entre tous ces vaccins que nous devons faire pour nous protéger, allons-y.
Tu as des collègues qui ne partagent pas ça?
Je n'en ai pas discuté avec eux.
D'accord.
J'en ai pas discuté avec eux.
Tu discutes avec tes collègues un peu quand même.
Salle
des maîtres, souvent, moi j'entrais dans la salle des maîtres, c'était la zone interdite. Ça sentait la photocopieuse au pétrole là.
Ah, le papier carbone c'est terminé. Hein.
Ah ouais. Moi je le sentais et on sentait bien. Après.
Non, j'en discute pas trop. Et puis après, je suis dans une grosse école, il y a quand même 20 enseignants. 349 élèves à peu près, donc c'est il y a parfois des collègues que je vois que à 14h ou à 15h, donc c'est il y a un sacré rythme aussi, on a du boulot quoi. Mais là-dessus, le sujet n'a pas été débattu et je pense qu'il y a, de mon point de vue,
d'accord,
il y a pas de débat.
Il y a pas de débat pour toi en tout cas.
Pour moi, il y a pas de débat.
Très bien. Bon, t'as le droit de pas avoir de débat là-dessus.
Voilà.
On va marquer une petite pause. Alors, t'as choisi un petit titre, des sages poètes de la Russe à l'ancienne, ça.
Ouais, c'est
ils viennent du Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt, des années 90.
Exactement.
Nos invités choisissent leur titre musical. Le titre s'appelle
Le train de minuit. Et c'est une petite dédicace à un de mes potes qui fait beaucoup beaucoup ce son et qui adore les sages poètes de la rue et surtout l'histoire est belle.
Donc, en deux mots l'histoire avant d'écouter.
C'est l'histoire d'un guitariste qui est ignoré par des flots de personnes alors qu'il est très très bon et par un flot de personnes, ceux qui prennent le métro pour aller travailler, ceux qui prennent le métro pour rentrer chez eux de leur soirée arrosée ou non. Mais et tout se passe devant ce guitariste sans faire attention à la belle mélodie qu'il joue et voilà ce qui est raconté dans cette chanson.
Tu sais que on a fréquenté le même lycée avec les sages-poètes de la rue.
Ah,
à Boulogne-Billancourt.
Excellent.
Pas tous, il y en a d'autres qui ont raté le lycée rapidement. On fait de la physique, mais on n'était pas très loin. Et on se retrouve juste après, on écoute les sages-poètes de la rue, puis on continue avec toi, on parlera du confinement.
Merci.
Le train de minuit, direction Pont-de-Sèvres. Yo, dans le train de minuit, des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe, pessimiste ou optimiste. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Et Yodan prend le mic et donne une pièce d'or.
Minuit.
dans Paris souveraine. Un train nous entraîne à travers de ferroviaires, galeries souterraines, des lumières éclairent les murs des tunnels aux parois sales. Dans le wagon règne un silence presque paroissial. Alors que dehors, au rythme des cliquetis surgissent des graffitis couleur or. Tu vexor que c'est mélopée, on est un beau souvient. Trois négropolitains dans le métropolitain. La file indienne mécanique s'immobilise à nouveau. Toutes sortes de gens rentrent, mais nos regards accrochent ce duo. Un guitariste traînant un ampli. Et quand les portes se sont fermées, un air a jailli.
Je que c'est bon, dans le train d'entendre du son anxieux de ceux qui aiment ce genre de relaxation. Car si on n'avait pas ça, ce serait le stress total. Le messie des stations n'a pas l'outil, ça sert total. Mais juste une guitare, avec qui joue un air que j'aime. Même au mitard, cette mélodie calmerait ta haine. Elle faisait yeah. Dans le train de minuit, des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore,
et encore.
Qui joue encore et encore,
encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Mélophilo prend le mic, file-lui une pièce d'or.
On attendait sur le quai, direction Pont de Sèvres. Le trafic était léger, non ce n'était pas un rêve. Il est entré après moi, les yeux remplis de tristesse. J'aurais voulu faire quelque chose pour apaiser sa peine. Les gens n'avaient pas un regard pour lui. Il jouait de la guitare afin de gagner sa vie. Je me rappelle de ses accords qui flottaient dans l'espace. La mélodie me capte, c'était vraiment vivace. J'ai encore ce brin de musique au fond de mon cœur. Écoute un peu comme je l'installe dans mon séquenceur. On ajoute les paroles, Zox frappe la batterie. L'ambiance change, ce morceau on lui donne une vie. Notre inspiration à la base vient de la rue, avec ses bruits de la nature inattendus. Mais ce soir c'est dans le métro qu'elle se réfugie. J'aurais aimé parler à cet homme du train de minuit.
Renoir il y a dans le train de minuit des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe, pessimiste ou optimiste. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore,
encore et encore.
Qui joue encore et encore,
encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Et le Zox, il prend le mic, il lui fout une pièce d'or.
87, l'année où il sort du mitard, avec cette unique richesse, sa guitare, la nuit tard. Il traîne les bars et sa baisse pour jouer, puis part avec la haine au cœur quand sa fierté est bafouée. Il est comme vous et moi, à base de plein de rêves. Dernier métropreneur, il gratte, même quand il y a grève. Pathétique, c'est ça, son vieil comme les textes. Mais les textes, ils ne font pas le pur style de mec.
Le voir comme ça, jouer, style, rien à battre. Du monde me fait penser l'espace d'une seconde. À moi dans le bac, quelques années en arrière. Gueulant mes rats, rêvant d'une grande carrière. Maintenant nous sommes en piste, Boulogne lyriciste. On souhaite bonne chance à ce bon guitariste qui jouait.
Il joue encore et encore,
encore et encore.
Il joue encore et encore,
encore et encore.
Il joue encore et encore. Il joue encore et encore,
encore et encore.
Il joue encore et encore,
encore et encore.
Il joue encore et encore. Dans le train de minuit des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe, pessimiste ou optimiste. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore,
encore et encore.
Qui joue encore et encore,
encore et encore.
Qui joue encore et encore.
De retour sur Cause Commune 93.1 émission et pour cause, toujours en compagnie de Folie qui est instituteur, professeur des écoles, enseignant, maître.
C'est comme ça que certains élèves m'appellent. Ouais.
Non, mais ça te va bien, maître. les sages poètes de la rue, Boulogne-Billancourt, voilà, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune. Merci, Folie, de ton choix. Il y avait une anecdote, Folie, on en parlait à hors antenne. Tu es d'origine
togolaise.
Attention, faut pas se tromper, togolaise. Et tu as une anecdote à ce propos avec un parent d'élève. Tu as envie de la partager.
Alors.
Malgré tout, il y a encore voilà, des préjugés.
Ouais, clairement, j'ai eu deux petites anecdotes. J'ai commencé dans une école de Boulogne-Billancourt.
Ah bah voilà.
Et d'où les sages-poètes de la rue.
C'est ça.
Et il est vrai que lorsque j'ai eu le concours, je me suis présenté au mois de juillet pour rencontrer ma directrice et prendre des informations sur l'école, pour faire mes commandes et ainsi de suite. Et il y a un jeune garçon qui s'est approché de moi et qui m'a dit « Ici, c'est pas une école pour les marrons ». Et bon, bah, je me suis dit, c'était pas l'automne, donc aucun marron en vue, donc je pense que j'étais visé. Et ça m'a un peu troublé. C'est vrai que la directrice m'a prévenu que je pourrais probablement avoir quelques soucis, mais qu'elle s'en chargerait et qu'elle les renverrait.
Ah, t'avais déjà
M'avait briefé, elle m'avait dit que certains sont un peu réticents. Alors j'étais jeune, peut-être. Alors on va mettre ça sur le coup de la jeunesse surtout, parce que bon, de là à faire une fixette sur ma couleur de peau, je vois pas trop, mais c'est vrai que bon, j'ai déjà eu aussi dans une autre école où parfois on me prenait soit pour un parent d'élève, soit pour le gardien de l'école. Et bon, voilà, c'est déplorable, mais ça arrive quand même quelques fois. Ça existe un peu. Ça tend à ne plus exister, j'espère. Mais voilà, je suis largement capable d'enseigner. Je suis.
Évidemment.
Voilà, j'ai les diplômes, j'ai passé le concours, tout roule, quoi. Faites-moi confiance, on y va, on avance.
Mars 2020, tout s'arrête. On vous annonce que les écoles vont fermer, que les enfants vont rester à la maison. Un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron nous fait une allocution, nous disant tout ce qui va se passer. Il y avait, je crois que ça s'est passé du jour au lendemain, de souvenirs, enfin très vite. Comment vous êtes organisé? Est-ce que c'est une période que tu as bien vécue? Ça, c'est court. Donc tu as donné des cours à distance?
Alors exactement.
Aussi.
Alors au niveau de l'organisation, ça a été. On a dû s'organiser très très rapidement. Vraiment, il a fallu récupérer les adresses mail des parce que nous on travaille peu à distance. On a nos élèves dans nos classes, donc on pense pas à tout ce côté numérique. Donc il a fallu faire des mailing lists. Et, bon, ce qu'on
savoir
sait faire,
s'ils étaient équipés déjà
aussi.
S'ils n'étaient pas, vous aviez la possibilité de leur donner des outils, des ordinateurs, des tablettes.
Exactement. Donc il a fallu s'organiser là-dessus. On a donc contacté les parents. On a essayé de vérifier si tout. Les familles étaient correctement équipées. Il s'est avéré que c'est pour certaines familles, il était très compliqué. Hein. Il pouvait y avoir une tablette pour 4 enfants de la même école, une tablette pour 3 enfants, parfois ni de tablette ni d'ordinateur. Il y a un recensement qui a été fait de la part de notre inspection pour distribuer les tablettes. Après, quand on demande est-ce que vous avez reçu quelque chose et est-ce que vous avez reçu un coup de fil, ben, nos parents nous disent que non. Donc ça a été un peu lent. Mais au final, il y a eu une distribution, mais un peu plus tardive.
Les enfants sont équipés au bout d'un moment, malgré tout.
Au bout d'un moment, c'est long, mais certains sont équipés. Alors, pas tous, mais certains sont équipés.
Et là, ben, on expérimente les cours à distance.
Exact. Et ça a été. Moi, je l'ai, entre guillemets, bien vécu. Il s'est avéré que il a fallu quand même partager ma classe en groupe, en groupes différents. On avait la possibilité d'utiliser la classe virtuelle du CNED, ce que j'ai fait. Ça m'a permis de pouvoir garder.
Oui, c'est l'outil que propose l'Éducation nationale.
On ouvrait une classe virtuelle. On avait des codes bien précis. C'est la classe virtuelle qui est utilisée pour ceux qui font l'école à la maison. Et donc on avait la classe virtuelle et moi je réunissais mes élèves par petits groupes de 5-6 puisqu'il était très difficile pour moi de gérer les
24,
en même temps. Ouais. Donc je leur donnais des petits rendez-vous sur des enseignements bien particuliers. La consigne nous avait été donnée de ne pas trop avancer dans le programme parce qu'on savait que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne au niveau de stress de l'accès à internet ou de l'accès au matériel informatique et aussi au niveau de l'aide à la maison parce qu'il y a des enfants qui peuvent être aidés, d'autres pas. Donc il nous a demandé quand même d'alléger. Moi, en CM2, j'ai un tout petit peu avancé sur certaines choses, que ce soit en histoire, en géographie ou en sciences. Mais ça m'a permis aussi de travailler avec eux à distance. Le contact était bon.
C'était une bonne expérience pour toi?
Oui, parce qu'ils étaient demandeurs. Mes élèves étaient vraiment demandeurs.
Tu sentais qu'il y avait un manque pour eux?
Ah ouais, véritablement.
Le repère école?
Ah oui, d'accord. Ça a été véritablement un manque pour eux. Il était... Ça leur faisait du bien. Moi, quand je terminais mes sessions de classe virtuelle, ils me redemandaient quand est-ce qu'on en refait une.
T'étais en visu?
Non. Moi, je...
On pouvait te voir, mais certains...
Moi, j'ai préféré juste...
Professeurs ne souhaitaient pas...
Voilà, moi, je ne souhaitais pas être vu. D'accord. Je souhaitais juste être entendu.
Tu étais en pyjama, tranquille, et tu pouvais faire...
en short, en tongs et ouais. En t-shirt, et ouais, je faisais classe tranquillement. Ouais. Non, mais trêve de plaisanterie, j'ai plutôt apprécié ce moment-là.
T'as eu des décrochages?
Pas tant temps.
Est-ce que des élèves ont disparu ou c'était compliqué de se connecter avec eux ou
Alors moi je suis un peu un... alors c'est mon caractère aussi, je suis un peu un acharné, j'harcèle un peu. Donc si sur internet ça passe pas, bah j'appelle les familles, j'appelle, je n'arrête pas d'appeler et je trouve un moyen pour contacter au moins un membre de la famille. Quand c'est un peu difficile, je reste au téléphone avec l'élève en question qui a du mal à se connecter et j'essaie de le guider un tout petit peu sur les devoirs que je donne. Et j'avais même parfois, j'organisais des rendez-vous téléphoniques avec certaines familles où je leur disais, bah voilà, à 11h je vous appellerai, à 11h30 je vous appellerai pour vous expliquer ce que j'attends. Et sans bien sûr leur mettre la pression parce que je sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, vraiment. J'ai eu de très très bons retours.
Et c'est vrai qu'il y a eu un retour après en classe, il y a eu d'autres sortes de confinements, de couvre-feu, etc. Mais les écoles n'ont pas été fermées. Tu penses que c'était une bonne solution ?
Oui, je pense que ne pas fermer les écoles, c'est permettre à nos élèves de garder quand même du lien avec ne serait-ce que leur père. Et de rester dans ce lieu d'apprentissage qu'est l'école, et c'est important pour eux. Parce que apprendre à la maison, certes, il y a un confort, c'est bien une semaine, c'est bien deux semaines, mais au bout d'un mois, il y a une lassitude qui se crée, il y a un manque de motivation qui commence à poindre. Et c'est pas agréable pour eux. Ils ont besoin de ce lien avec l'enseignant, ils ont besoin de ce lien avec leurs camarades, et ils ont besoin de retrouver leur école. C'est leur espace qui leur est propre. Et qu'ils investissent chaque année.
Oui, non, pardon, vas-y, tu peux finir.
Oui, c'est vraiment important, la fermeture des écoles. Certains peuvent avoir un avis sur le côté sanitaire de la décision, mais très sincèrement, il est très important pour nos enfants, pour les enfants, de revenir à l'école, de participer à la classe.
De toute façon, je ne pense pas qu'il y aura d'autres confinements, en tout cas liés, enfin que les écoles seront fermées de nouveau.
En tout cas, j'en sais rien, je ne suis pas devin.
Tu n'es pas encore ministre, mais peut-être un jour, en folie, tu seras
là.
J'ai une question d'un auditeur, là. Une bonne question.
Vas-y.
Donc, je vais te la poser. Pour enseigner en REP, on dit REP, ou en ZEP, dans des quartiers difficiles, populaires, faut-il venir ou connaître ces quartiers pour pouvoir y enseigner?
Alors, connaître le quartier, en fait, il faut aussi, en gros, il faut pas arriver.
Est-ce qu'il faut connaître les codes? Est-ce que il faut peut venir d'un quartier plutôt bourgeois ou d'avoir un... Est-ce qu'il faut connaître le quartier populaire ou pour avoir grandi dans un quartier populaire pour pouvoir avoir une meilleure acceptation des élèves ou le fait de connaître les codes ou le système
Pas du tout. Il faut tout simplement, peu importe l'origine sociale de l'enseignant, la première chose et surtout la chose primordiale, c'est d'avoir du respect pour les familles qui sont présentes et de les connaître et de faire cet effort d'aller vers ces familles et de n'avoir aucun préjugé. Et d'arriver avec une image vierge, une page bien blanche, et de faire en sorte que chaque famille que l'on reçoit vient avec ce qu'elle est. Et d'avoir du respect pour ces personnes-là. C'est l'unique condition qui peut permettre une bonne adaptation. Si on arrive avec des images en se disant « Oh, ils savent pas se tenir, ils respectent pas les codes » et ainsi de suite, ça fonctionne pas. C'est normal parce que vous mettez dans une posture de retrait et de crainte. Alors qu'il ne devrait pas y avoir ce type de posture-là.
Alors l'autre question, c'est faut-il avoir de l'expérience pour travailler dans des établissements difficiles ?
De l'expérience, je ne sais pas.
Est-ce que tu trouves ça normal qu'un professeur qui sorte de sa formation et qui soit affecté dans des... là, un peu plus large, hein, que ce soit collège, lycée, dans sa première expérience, dans un collège ou lycée ou une école très difficile, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est logique, en tout cas?
En fait, il n'y a pas une question de logique. C'est-à-dire que quand c'est une question de personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le métier d'enseignant est un métier incarné. Et si, en tant qu'individu, on arrive en ayant peur et en se disant que « Oh là là, j'arrive dans un quartier qui est très difficile », en fait, il faut se libérer des étiquettes. Tant qu'on n'est pas sur le terrain, on arrive avec aucune étiquette. C'est une erreur d'arriver avec des a priori, des préjugés sur ces personnes-là. Je vais pas parler de moi, mais Karim, tu me connais un peu, mais voilà, ayant grandi à peu près dans ce type de quartier, moi je m'adapte partout, et l'être humain est fait d'adaptation, donc on s'adapte, et surtout, ne pas avoir de préjugés, beaucoup de respect, et œuvrer pour les familles, œuvrer pour les enfants. Une fois que les familles sentent ça, qui que vous soyez, hein, quelle que soit votre origine sociale, hein, ça se passera très bien. Et ça se passe très bien d'ailleurs. Je suis dans une école où ça se passe très bien. Donc il faut surtout arrêter de croire que les REP sont des zones très dangereuses. Oui, il peut se passer certaines choses. Le quartier peut amener quelques ennuis et c'est les élèves qui nous en parlent. Mais les enfants vivent très bien leur scolarité. Ils sont très à l'aise. En tout cas, je parle de mon école. Dans mon école, ils sont très à l'aise. Et en tant qu'enseignant, il faut... Parce que moi, j'en ai entendu des discours d'enseignants. Ah, j'ai pas trop envie d'aller là-bas. Ben non, en fait.
Oui, des craintes ou des a priori, des méfiances.
Exactement. Et moi, j'ai toujours été le premier à dire, ben non, allez-y, enseignez. Et faites ce que vous avez à faire, ils vont sentir que vous êtes là pour eux et ça va très bien fonctionner. Mmh. Il est hors de question de se dire moi je ne peux qu'enseigner que pour un type de personne, c'est inconcevable de dire ça. Donc on enseigne pour la totalité des personnes et on doit faire en sorte de considérer toutes les personnes comme des citoyens à part entière, méritant le respect et en tant que membre du service public, et on doit aller vers ce public. Tout simplement.
Faut être syndiqué pour être enseignant ?
Pas forcément, il y en a qui ne le sont pas du tout, d'autres qui le sont. Il y a vraiment de tout. Mmh. Il y en a qui le sont et qui sont fortement impliqués, d'autres qui ne le sont pas. Vous savez, c'est une mini-société, mais on fonctionne comme celle qui est à l'extérieur. Hein. C'est pas une sorte de... L'enseignement n'est pas un microcosme. Vous avez des divergences politiques.
Faut être de gauche pour être enseignant.
Pas forcément, il y en a qui peuvent être de droite.
Et c'est une majorité, quand même. On dit que l'éducation nationale... Enfin, les professeurs, en tout cas, sont en majorité.
Après, bon, en salle des maîtres, on donne nos opinions. Face à élèves, on est très neutre.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Mais oui, il y a de tout. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment, c'est le, voilà, c'est, il y a pas de, il y a pas de barrière entre les enseignants et le reste de la société. Il faut savoir qu'une fois à 16h30, voilà, on remet notre casquette de citoyen et on sort dans la rue. Nous sommes des citoyens lambda avec nous, nos qualités, nos défauts et nos opinions.
Il y a eu il y a quelques mois ce professeur, tu sais, qui a été eu de l'attentat à l'affaire Paty.
Exact.
On vous a demandé d'échanger avec les élèves à ce moment-là. Tu l'as fait, j'imagine. T'as un témoignage là-dessus. Comment réagit ces élèves? Il y a quelques temps maintenant, c'est vrai, hein, c'est plus d'actualité, mais c'est pas grave. Ça n'a pas dû être évident. T'as été touché, toi, personnellement, je suppose, ou vous, en tant qu'enseignant?
En tout cas, j'ai été touché. J'en ai discuté avec mes élèves très sereinement. Ce qui a beaucoup touché les élèves, c'est toutes les campagnes médiatiques autour de la foi de certains citoyens français, au final, hein, de la foi de certains citoyens français, qui, les enfants se sont sentis choqués de tout ce qu'ils entendaient, et ils ne comprenaient pas, ce qui pourrait s'apparenter à un acharnement. J'ai bien dit, c'est pour ça que ce qui pourrait s'apparenter à un acharnement. Et il y avait beaucoup de... Il soutenait, il se disait, bah oui, ce qui a été fait, c'est horrible. Voilà. On n'a pas eu de message allant dans le sens d'une personne qui enlève la vie d'un autre. Et dans l'ensemble, voilà, il a été... ça a été clair, net et précis pour eux. Ils condamnaient totalement. Et c'est ce qui les gênait. Ce qui gênait, c'est ce qu'ils entendaient. En tout cas, ce qu'ils arrivaient à entendre à la télé ou ce que les parents peut-être pouvaient leur raconter de ce qu'ils ont entendu à la télé.
Par rapport à leur religion, etc., on faisait un...
Il y a eu peut-être des déclarations qui ont fait beaucoup plus de mal qu'on ne le pense, vraiment. Et c'est ça qui, je pense, a un peu touché nos élèves, voilà, pour certains, en tout cas certains de nos élèves.
T'as fait un STAPS, c'est ça? Non, t'es un ancien sportif?
Ouais.
Enfin, je dis ça, t'es venu quand même à vélo, bravo. T'as fait,
kilomètres? Ouais, c'est 9 kilomètres à peu près.
Ouais, pas du tout.
C'est pas grand-chose.
J'en ai fait 40 ce week-end. parcours STAPS, sport. Alors, parce que moi, j'imagine, il y a beaucoup de personnes qui font une reconversion professionnelle et notamment deviennent instituteurs des années après.
Ouais.
Après une expérience dans le privé, dans une société, etc.
Bien sûr.
Comment on peut devenir professeur des écoles? Il y a plusieurs biais. Troisième voie, exact. Qu'est-ce qu'il faut avoir au minimum? Les conditions, c'est quoi? Alors, il y a des vacataires, il y a des titulaires.
Exact.
Est-ce que à un moment donné, il y a eu d'ailleurs, c'était compliqué d'avoir des instits, il y a eu
une
petite pénurie. Si tu peux nous en dire quelques mots.
Alors, j'ai fait STAPS.
Bravo.
J'ai eu ma licence.
Quel athlète.
J'ai eu un master, ensuite métier de l'enseignement, et ensuite j'ai tout simplement. Il faut avoir bac plus 5 pour pouvoir se présenter au concours. Alors, en 2013, quand je l'ai passé, le concours se faisait en deux parties, une partie écrite, une partie orale où on vous donnait un sujet. En français, en éthique, en mathématiques et en EPS, et il fallait
Donc pour être instit, il faut avoir un bac plus 5.
Voilà, pour être
quoi qu'il arrive. Ouais.
Quoi qu'il arrive, c'est la condition sine qua non. En tout cas, la première voie, la voie générale. C'est bac plus 5, ensuite on passe le concours.
D'accord, il y a d'autres voies.
Je pense que c'est encore en vigueur le fait d'avoir 3 enfants, on peut passer le concours.
Donc on a 3 enfants à la maison, on est mère ou père de 3 enfants, ce qui nous permet de juste passer le concours.
Oui, après on réussit ou on ne réussit pas.
D'accord. Donc juste avec un bac, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études.
Certaines mères de famille ont aussi des licences ou des masters et à un moment donné, elles décident d'enseigner.
Okay.
Il est possible aussi de passer des concours en voie interne. Par exemple, il y a des collègues. Ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des collègues du second degré qui veulent passer un concours et repasser professeur des écoles, et des professeurs des écoles qui passent un concours pour être, par exemple, professeur d'anglais, professeur de sciences éco ou autre, en fonction de leur sensibilité.
Il y a différents statuts, donc on peut être soit vacataire, après, ou on peut titulariser, c'est bien.
Alors,
ça
moi, vu que j'ai le concours, je suis professeur
titulaire,
fonctionnaire de l'État, de l'éducation nationale. On a des contractuels, ce sont des personnes qui sont recrutées par Pôle emploi et qui doivent bénéficier d'un bac plus 5.
D'accord.
Avant quand même de venir en classe.
Ok.
Ensuite,
il n'y a plus de formation du UFM dans ces cas-là. Alors, on a juste un bac plus 5 et on y va.
Ils postulent, et ça, c'est d'accord. vraiment quand le département où l'enseignant travaille est en pénurie. Il faut savoir aussi qu'il est possible de. Alors, ça, c'est les contractuels, les titulaires, et puis c'est tout.
Les vacataires.
Alors,
je crois qu'il y a quelques vacataires.
En fait, c'est ce qu'on appelle les contractuels. Nous.
D'accord, ok.
Voilà.
C'est la même chose. Très bien. T'es heureux dans ton boulot, j'ai l'impression.
Ouais.
T'es pas blasé là.
Oui,
t'as
oui, non, mais
finir
vraiment.
Ta carrière,
Je l'ai choisi. Donc, j'ai pas. C'est pas une reconversion professionnelle pour moi. C'est un choix mûrement réfléchi et qui a été accompagné d'ailleurs par des structures, par des membres de structures qui m'ont bien aidé, par des maîtres formateurs aussi qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais à l'UFM, parce que à l'époque où j'y étais, l'UFM existait. En tout cas, le terme il existait. Donc moi je suis bien dans ce que je fais, je suis très content de ce que je fais et j'essaie de proposer des choses intéressantes à mes élèves. En tout cas j'essaie vraiment, c'est un essai, un grand essai sur 7 ou 8 ans.
Donc tu crois que l'école d'aujourd'hui est bien finalement encore? Elle a été décriée souvent.
Je trouve que l'école d'aujourd'hui peut permettre les apprentissages de tous. Il y a des choses à améliorer comme tout, hein. Rien n'est figé, mais il y a de belles initiatives, il y a des pédagogies qui sont mises en place, il y a des projets qui fonctionnent.
Des professeurs qui s'investissent réellement.
Oui, vraiment.
Sortie culturelle, en projet.
Crois-moi, dans mon école, ça foisonne et il y a vraiment beaucoup d'investissements. On est vraiment auprès de nos élèves et nous sommes vraiment impliqués.
Et d'ailleurs, tu as envie de mon... On va en parler, parce que tu es à la radio, tu as monté Noé aux radios avec tes élèves.
Effectivement,
c'est bien ça.
Il y a 6 ans, j'ai la première année où j'étais dans l'école, j'ai monté une radio qui s'appelle NTVV Radio. Grâce à la collaboration que j'ai pu mettre en place avec Radio Agora, qui est une wiki radio, une radio partagée. Et donc cette radio, c'est la radio qui est à l'Agora, qui est un petit espace culturel.
Donc web radio avec tes élèves, traiter l'actualité, pouvoir.
Alors sur ce coup-là, c'était pas vraiment un traitement de l'actualité. Alors si
ton projet, en tout cas, ce que tu souhaites faire là
à terme,
le futur.
Oui, là dans le futur, oui, c'est ça, un peu de traitement d'actualité. On va commencer par d'abord faire des sujets très généraux pour développer l'expression orale et surtout l'expression écrite. Ensuite, on va arriver sur le traitement de sujets de société, pourquoi pas faire des micro-trottoirs, inviter des personnes et réaliser des interviews. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est un très, très gros projet qui va, à mon avis, se mener sur 2-3 ans, parce que c'est lourd. Mais j'ai plein d'idées. C'est un médium qui me...
Qui te conseille?
Hein?
Elle était bonne, celle-là. Non, Olivier, elle était pas mal. Non, pardon, finis ta phrase.
C'est un médium.
À la fin, ça part complètement en vrille. C'est un médium qui me conseille sur tout ce que
c'est
je dois faire dans mon quotidien.
Ouais, une boule de cristal.
Voilà, c'est ça. Je sais pas, je vais faire un projet radio.
Exactement. Donc, c'est un médium qui m'intéresse beaucoup. Bah, c'est, voilà, c'est l'utilisation de la voix, comment poser sa voix, écrire avant de parler, être bien entendu. Mmh. C'est tout un exercice qui semble être facile, mais qui ne l'est pas.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs nombreux sur ce métier en disant voilà, foncez, vous, peut-être qu'il y a des jeunes qui se posent la question de devenir enseignant, parce qu'on dit souvent que c'est difficile, que c'est pas évident. Alors, je pense qu'élémentaire, maternelle, c'est encore autre chose. Au collège, au lycée, c'est peut-être encore différent sur la gestion de classe ou sur d'autres problèmes comportementaux. Pas forcément, on peut avoir aussi des problèmes
d'ailleurs
en élémentaire, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui souhaiteraient faire ce boulot?
Alors, c'est qu'ils s'informent énormément, que toutes les personnes, en tout cas s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par cette fonction, qu'ils prennent un maximum d'informations, mm-hmm. qu'ils fassent beaucoup de stages, surtout qu'ils n'aient...
Qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tout cas?
Moi, ce métier-là, mm-hmm. beaucoup de tranquillité, de sérénité, de bonheur. C'est quand même assez... C'est gratifiant de passer une année avec des élèves, de les voir évoluer. Si j'arrive à les faire évoluer, hein, c'est un peu mon métier, je dois les faire progresser. Si je les vois progresser, bah, c'est une véritable satisfaction. Et je vois, moi, des collègues hein, qui ont fait progresser certains élèves. Et on est vraiment... C'est des batailles pour certains. Ce sont de véritables batailles qui sont menées avec les familles et qui amènent à de véritables progressions. Et quand on voit... ces évolutions, ben on est heureux, tout simplement. On est très content de voir ces élèves évoluer, se sentir mieux dans leur peau, se sentir à l'aise dans les apprentissages et d'élargir le champ des possibles. Et c'est ce que j'apprécie, c'est de pouvoir voir mes élèves progresser. Et si j'arrive à faire progresser mes élèves, le contrat est rempli. S'ils ont retenu quelque chose de leur année, ne serait-ce qu'une, deux ou trois, et ben le contrat est doublement rempli. Et s'ils sont heureux de venir à l'école et s'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent valorisés, qu'ils se sentent accueillis et dans un espace serein pour apprendre, et ben c'est cadeau quoi, tout roule quoi. Et il faut pour ceux qui souhaitent vraiment devenir enseignant, il faut s'informer énormément, regarder ce qui se passe, s'intéresser aux pédagogies, s'intéresser à
et puis,
relationnel parent-enfant,
sortir aussi du côté, c'est votre boulot, mathématiques, français, histoire, ces matières là, mais il y a plein d'autres projets que vous mettez en place. Et on essaye aussi que l'école puisse proposer d'autres choses que des cours
magistraux,
comme on dit. Du théâtre, monter des projets radio.
Exact. Je peux te parler de mon école. Hein. Il y a un projet théâtre avec une association qui s'appelle Les Petits Classiques, qui fonctionne du feu de Dieu.
C'est un beau Nanterre.
Pardon, ça bouge pas mal.
Ouais.
En tout cas, dans mon école, on essaie vraiment de proposer beaucoup de projets et de faire en sorte que de lier les apprentissages à un projet pour les rendre beaucoup plus concrets. C'est-à-dire que quand on est oralisé un texte au théâtre, ça demande beaucoup de lecture, ça demande une connaissance d'un type de texte en littérature.
On disait qu'il y a des enfants qui ont d'autres compétences que d'être bon en maths, bon en français, mais qui vont être très bons orateurs qui vont avoir le sens de la répartie, etc. Et utiliser aussi ça.
Exactement. Et ça le fait. Et beaucoup le font. Mmh. Il faut le savoir. Beaucoup le font. Ça permet de révéler certains élèves. Quand on voit certains élèves en représentation, pour certains qu'on connaissait un peu timoré,
on les met en valeur.
Ça leur permet de se mettre en valeur. Et on insiste là-dessus. En tout cas, je sais que dans mon école, nous insistons là-dessus sur la mise en place de projets pour sortir du carcan des matières
il nous reste 20 secondes
des matières un peu magistrales. Voilà.
Merci Folie. Alors
merci,
tu t'appelles Folie, c'est ton prénom.
Oui, bah ça.
Il est très joli.
Très joli, mais il a une histoire.
Ah, en deux mots.
En deux secondes, c'est parce que dans l'ethnie de ma famille, on donne des prénoms d'ordre en fonction de l'ordre d'arrivée. Et moi, je suis l'aîné, donc je m'appelle Folie. Voilà.
Donc, parce que t'es en premier, donc c'était La Folie.
Voilà. Non, c'est pas La Folie, c'est Folie tout court sans eux.
D'accord.
Mais voilà, je suis le premier de ma famille. Il y a plusieurs prénoms.
D'accord.
Pour les aînés, plusieurs prénoms pour les cadets, plusieurs prénoms pour
les
benjamins.
Folie, une traduction, ça veut dire quelque chose.
L'aîné.
L'aîné. Ah, c'est dire l'aîné. Voilà, c'est ça, c'est la traduction.
C'est l'aîné.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à toi, Karim, pour l'invitation.
Ici à Cause Commune 93.1. Merci, Olivier, pour la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour votre émission. Et pour cause avec notre invité. Bonne soirée à toi et bon cours demain.
Merci et bonne soirée à toi, Karim.
Ciao.
Merci pour l'invitation.